Il est 6h02 et c'est le retour de temps un peu plus chaud aujourd'hui avec des températures qui vont être à la hausse durant toute la semaine. Ce sera dégagé tôt ce matin. Le maximum pour aujourd'hui sera de 24 degrés. Il va y avoir quelques nuages qui vont passer ça et là, mais ce sera une belle journée quand même. L'humidex sera à 26. Ce soir et cette nuit, ce sera dégagé. Il fera 17. Mardi, du beau soleil avec 27 degrés, 31 l'humidex. Mais ça reste frais quand même la nuit avec des minimums qui vont osciller autour de 16 degrés. Et pour mercredi, on parle de soleil maximum de 27. Et à peu près le même scénario pour jeudi avec 28. Du soleil également pour vendredi et 29 degrés. Donc, plus ça va aller durant la semaine, là, plus ça va se réchauffer. Si on regarde plus loin à l'horizon, mais ça a bien le temps de changer, là. C'est samedi, il pourrait y avoir de la pluie avec 26 degrés. Mais comme je vous dis, là, à long terme, c'est un petit peu plus difficile à prédire. Il fait 15 degrés en ce moment à Montréal. Bon, faisons un tour dans ce qu'on retrouve dans les différents quotidiens. Eh bien, il y a cette histoire dont nous parlait Sabrina tout à l'heure. Un homme en crise qui est mort sous les balles des policiers. Ça s'est passé dimanche matin à Repentigny. Le bureau des enquêtes indépendantes, le BEI d'ailleurs, a envoyé une armada de policiers hier, ou d'enquêteurs plutôt, pour enquêter sur cet événement-là. Et ce qui était assez particulier, c'est que le fils de l'homme qui a été tué par les policiers ou abattu par les policiers a vu, en fait, à la télévision, la résidence de son père. Il s'est rendu sur les lieux. Une fois rendu là-bas, bon, il y a eu une prise de bec avec certains policiers. Il y avait des rubans jaunes, bien sûr, devant la résidence. Et l'homme s'appelle Keshan Olivier. Il était au milieu des voitures de police, selon ce qu'on peut lire dans la presse. Et il pointait du doigt, revendicateur, les agents qui étaient postés devant la maison de sa grand-mère. Et là, il a dit « Mon père a été tué. Il veut avoir, bien sûr. Il dit « Je veux savoir ce qui s'est passé. » Après une conversation animée avec les policiers, il a pu entrer à l'intérieur de la résidence. Les policiers ont été avisés vers 7h30 hier qu'une personne confuse et désorganisée était armée d'un couteau et se trouvait à l'angle des rues Cousineau et Niagara. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les policiers auraient fait usage du gaz de poivre pour essayer de maîtriser l'homme en question, mais ça n'a pas fonctionné. Un homme de 38 ans. Et là, ben, il y aurait ensuite eu quelques coups de feu qui ont été tirés dans sa direction. L'homme a été atteint mortellement. Alors là je comprends, là, il y a un paquet de gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit hier pour me dire que c'était un crime raciste, tout ça, mais laissons donc l'enquête se poursuivre avant de tirer des conclusions hâtives. Bon, braquage violent et préoccupant, ça c'est assez spécial. C'est une pharmacie de l'Est de Montréal qui a été le théâtre d'un vol d'une très grande violence. Ça s'est passé samedi, au moment même où le Québec est frappé par une pénurie de stupéfiants qui est amenée par la pandémie. Alors, entre autres, on parle de psychostimulants et de tranquillisants là, qui sont souvent recherchés par les voleurs. Alors, ça s'est passé vers 17h10. Au moins deux individus se sont présentés dans un Family Prix et ont forcé le personnel à se coucher au sol. On s'est emparé de médicaments et d'argent. On a même, il y a même des employés qui ont été blessés là, avec un objet tranchant, en plus d'un autre employé qui a été ligoté à un de ses collègues. Bref, ça a brassé pas mal. Et là, pour l'instant, on n'a pas les médicaments qui ont été volés, mais on peut comprendre que ce sont souvent des opioïdes ou des benzodiazépines qui sont des tranquillisants et bien sûr des opiacés, là. C'est ça qui est très recherché. Alors, est-ce que les pharmacies vont devoir changer leurs habitudes et mettre les médicaments comme ceux-là plus à l'abri, par exemple, des voleurs? Ben, c'est une question que posent justement certains responsables qui sont liés au monde pharmaceutique, là, pour dire ben, peut-être qu'on va falloir faire attention à la façon dont on va entreposer les médicaments. Dossier intéressant dans le Journal de Montréal ce matin, parce que, vous savez, on a beaucoup parlé de la nouvelle gouverneure générale, Mme Simon, qui ne parle pas français. Elle est bilingue, mais pas français. Elle parle Inuktitut et également anglais, mais pas français. Alors, il y a quand même une sorte de généralisation, si on veut, dans la fonction publique fédérale, selon ce que nous apprend le Journal de Montréal aujourd'hui. Ils ont fait le tour un peu de la situation du français dans les différents ministères du gouvernement fédéral, puis on se rend compte que plus souvent qu'autrement, là, les gens qui sont de langue française doivent parler anglais dans différentes réunions. Alors, il n'y a pas que la gouverneure générale du Canada qui ne peut s'exprimer en français. La fonction publique fédérale ne fait pas beaucoup mieux et peine toujours à être véritablement bilingue. Dans la fonction publique fédérale, c'est en anglais que ça se passe et c'est un homme qui s'appelle Yvon Barrière qui a été employé des services correctionnels du Canada pendant presque 30 ans. Et donc, il dit, c'est comme ça que ça se passe, même au Québec, là. Quand c'est fédéral, ben, ça se passe en anglais. Il y a deux langues de travail au gouvernement, dit une autre fonctionnaire. L'anglais et la traduction de l'anglais. Mais pas de français. Et là, on a fait un peu l'espèce de constat qu'entre autres, durant la pandémie, ben, toutes les réunions entre fonctionnaires se passaient sur Zoom et il n'y avait pas de traduction parce que c'était trop long, puis il fallait prendre des décisions rapidement. Puis il y a d'autres exemples également là qui démontrent que ça se passe beaucoup, beaucoup en anglais. On dit même que à l'époque où Mélanie Joly était ministre francophone du patrimoine canadien, lorsqu'il y avait des réunions de fonctionnaires, ben ça se passait tout le temps en anglais parce que les fonctionnaires de son ministère ne parlaient pas français. Et c'est assez paradoxal que ce soit Mme Joly maintenant qui soit responsable de la langue française. Alors, on va lui poser la question, on va la recevoir un peu plus tard dans l'émission, voir ce qu'elle compte faire de cette situation où le français est assez malmené, disons, dans le beau grand Canada bilingue que voulait Pierre-Éliott Trudeau, le père de notre premier ministre actuel. Bon, à part ça, dans les différents quotidiens, ça, c'est intéressant quand même. Il y a un restaurant. Ça, c'est un article de Radio-Canada. Il y a un restaurant du Vieux-Port de Montréal qui, à compter du 1er septembre, va recevoir ses clients, en fait, ne va recevoir que des clients qui ont reçu les deux doses de vaccin. Alors, eux autres, là, ils prennent la situation en main puis ils disent... Monsieur Dubé a dit que si ça allait pas bien, puis s'il y avait une quatrième vague, on allait imposer le passeport vaccinal. Eh bien, sachez que ce restaurant qui s'appelle Éric et Fils, qui est situé sur la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Port, vont prendre le taureau par les cornes. À partir du mois de septembre, il faudra avoir reçu les deux doses de vaccin pour la COVID-19 pour fréquenter ce restaurant. Les mesures vont s'appliquer aux clients et aux employés. Seuls les enfants de moins de 12 ans vont être exemptés de la mesure parce qu'évidemment, ils ne sont pas vaccinés. Les clients devront présenter une preuve de vaccination sous forme du code QR ou de document papier. Le gérant du restaurant dit qu'il veut protéger son personnel, sa clientèle. La décision suscite certaines réactions. Il y en a qui pensent que ce n'est pas légal de faire ça. C'est le cas, entre autres, de Maître Julius Gray qui dit... Ben, en fait, il reconnaît que la mesure entre en conflit avec certains aspects de la Charte québécoise des droits et libertés, mais que ça passerait probablement le test des tribunaux. Alors, Maître Gray explique aussi que le propriétaire aurait à fournir un motif valable pour refuser de servir des personnes non vaccinées. Alors, est-ce que le fait de vouloir protéger sa clientèle et vouloir protéger ses employés également est un motif valable? Ben, faudrait que ce soit débattu devant les tribunaux. Mais c'est intéressant quand même que lui décide d'aller de l'avant sans même attendre les consignes du gouvernement. Il dit, chez nous, ça va se passer avec, justement, le passeport vaccinal. Bon, je vous parlais de ce restaurant qui veut imposer une sorte de passeport vaccinal chez lui. Ben, sachez qu'à l'opposé de ça, il va y avoir des opposants aux mesures sanitaires qui vont faire un gros party. Ça va se passer dans une municipalité de Chaudière-Appalaches, une municipalité qui s'appelle Saint-Benoît-Labre. Alors, les autorités policières et la santé publique ont dans leur mire ce festival qui va accueillir le week-end prochain des centaines d'opposants aux mesures sanitaires. Le nombre de personnes dans la municipalité, il y a 1600 personnes qui vivent là-bas, mais on s'attend à ce qu'il y ait 2500 personnes qui soient invitées à ce festival des Gaulois, selon ce que dit l'organisateur de cette espèce de rassemblement qui serait illégal. Il s'appelle Kevin Bilodeau et il a posté sur sa page Facebook le Festival des Gaulois. Il veut attirer des gens là-bas pour s'opposer à l'urgence sanitaire et à l'implantation d'un passeport sanitaire. Et là, le maire de Saint-Benoît-Labre, qui s'appelle Éric Rouillard, lui est un peu désemparé parce qu'il dit « je ne peux pas faire grand-chose, ça se passe sur un terrain privé ». on peut faire respecter la réglementation municipale, mais nos moyens d'action sont assez limités, dit-il, sur un terrain privé. Alors, je comprends pas pourquoi cette provocation-là tout le temps, mais en tout cas, il y en a qui veulent faire ça. Et il y a d'autres histoires complètement... Tu sais, tu lis ça, puis tu te dis pourquoi, tu sais. Alors, il y a des gens qui sont allés à Cuba. Il y a un couple de Montréal qui est allé à Cuba. Des gens qui s'appellent, attendez un petit peu, Claudia Gagné, entre autres, et son mari. Alors, eux sont allés à Cuba, puis là, ils se plaignent qu'ils se sont fait prendre un petit peu, j'allais dire, presque en otage par les autorités cubaines. Alors, je vous lis cet article à la une du journal Le Devoir ce matin. Des Québécois ont vécu un cauchemar lors de leurs récentes vacances à Cuba. À leur arrivée à l'aéroport de Varadero, les touristes doublement vaccinés ont passé un test de dépistage de la COVID-19 qui s'est avéré positif. Et les voyageurs qui étaient asymptomatiques ont été transportés en ambulance dans une clinique où ils ont dû payer pour une radiographie des poumons et un deuxième test qui, lui, était négatif. D'abord, je comprends là que c'est ils sont fait avoir carrément, là, ça ressemble à ça, des gens qui ont voulu en profiter, mais je comprends pas d'aller à Varadero, qui est probablement à Cuba l'endroit où il y a le plus de cas de COVID-19 en ce moment. Le taux de vaccination là-bas est minimal, est au plus bas. Et Varadero, à ce qu'on nous dit, à ce qu'on entend et ce qu'on peut lire, c'est que la raison pour laquelle il y a, entre autres, des éclosions là-bas, c'est qu'ils ont reçu beaucoup de touristes russes qui vont là-bas et qui ont amené le variant Delta également. Là, tu dis, puis ils voulaient aller là, en vacances, pour vrai? L'histoire, je trouve ça déplorable, ce qui leur est arrivé, puis je sais, je suis pas d'accord avec ça, ce qui leur est arrivé, mais en même temps, tu dis, je sais pas, peut-être que les îles de la Madeleine, c'était moins risqué, je sais pas. Mais en tout cas, il reste que c'est une situation qu'il faut déplorer, là, que tu sais, qu'il y a des touristes qui se font arnaquer en voyage. D'abord, c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est dommage, puis moi, je suis bien triste pour eux autres, mais en même temps, tu te dis, ah oui, aller à Varadero en cette période-ci, il me semble que c'est pas l'idée, la première idée qui me viendrait à l'esprit. Mais peut-être que je suis trop peureux. Et l'Allemagne prévoit une troisième dose de vaccin. Ça, c'est en cours, en fait, d'élaboration là-bas comme politique nationale. L'Allemagne qui va proposer dès le 1er septembre de vacciner les personnes âgées et vulnérables, entre autres, avec une troisième dose, parce qu'on a remarqué... Il y a des études, notamment en Israël, qui démontrent que l'efficacité du vaccin, dans le temps, surtout les vaccins ARN messagers, là, comme le Pfizer, le Moderna, l'efficacité diminue. Et donc, on est en train d'étudier chez Pfizer s'il n'y aurait pas lieu de donner une troisième dose pour que ce soit plus efficace. Or, en Allemagne, eux autres, ils ont décidé d'aller de l'avant. Des équipes de vaccination mobiles vont être déployées dans les établissements de santé pour personnes âgées afin d'administrer aux résidents des piqûres de rappel avec les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna, qui sont Et là, ça serait indépendamment. Là, il pourrait y avoir même un croisement de vaccins dans ces cas-ci. Les médecins pourront également faire des injections de rappel aux personnes âgées, aux patients dont le système immunitaire est affaibli. Bref, c'est une politique qui est en cours d'élaboration en Allemagne parce qu'on s'en rend compte que l'efficacité du vaccin diminue avec le temps. À part ça, ah ben tu sais, des fois, en tout cas, 5 ans après avoir obtenu des aides financières d'1,7 milliard des gouvernements du Québec et d'Ottawa, souvenez-vous, Bombardier avait reçu 1 milliard de dollars sous le gouvernement Couillard. Ben Bombardier demande à nouveau un soutien public, cette fois pour un ambitieux projet qui vise à rendre ses avions moins polluants. Alors, ce qu'on comprend, c'est que le projet est très avancé, même que j'en avais parlé avec Éric Girard, le ministre du Développement économique, qui nous mentionnait qu'ils sont en train d'étudier justement une aide qu'on pourrait accorder à Bombardier, qui maintenant se concentre sur les jets privés, parce que, bon, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, il y avait eu cette annonce très importante, 1,6 milliard de dollars qui avait été accordé à 3 entreprises, entre autres, il y avait CAE, il y avait également Pratt & Whitney Et bel textron là pour des projets justement qui visent à rendre les avions plus verts et investir aussi dans l'aérospatial. Or, on savait que Bombardier avait un projet qui était en cours d'élaboration, mais ils n'étaient pas présents lors de cette annonce-là. Bref, ce qu'a dit le président Éric Martel de Bombardier, il dit « On a soumis notre projet, on est en train d'en discuter avec les gouvernements, mais c'est un projet qui est assez costaud parce qu'on est très ambitieux », dit-il. Alors, c'est vraiment des percées technologiques qui mettraient sur la carte, pour le long terme, Bombardier, là, et on parle de projets qui feraient en sorte que, bon, il pourrait y avoir des avions plus écologiques. Mais là, on ne parle pas d'avions électriques. Il y a énormément de recherches qui se font en ce moment pour développer des avions électriques, mais Éric Martel dit qu'on n'est pas rendu au stade où on pourrait concevoir des avions d'affaires électriques, qui souvent sont des longs courriers, là. Le nerf de la guerre, c'est de faire de plus en plus de distance avec ces jets privés-là. Le Global 7000, je pense, peut faire presque le tour de la planète, là, atteindre partir de Montréal puis aller jusqu'en Asie sans faire d'escale. Alors, c'est un peu ça, le nerf de la guerre. Il n'y a pas un avion électrique qui est capable de concurrencer avec ça pour l'instant. Mais on aimerait rendre les avions plus verts et c'est en ce sens-là que Bombardier est en train de faire de la recherche et va demander, si on se fie à cet article du Journal de Montréal, de l'aide des gouvernements. Et bon, à part ça, qu'y a-t-il d'autre dans les différents quotidiens? Ça c'est intéressant. Vous savez, vous êtes obligé de souffler dans l'alcootest quand vous faites arrêter par la police, là, si les policiers soupçonnent que vous avez bu, vous êtes obligé de souffler dans l'alcootest. Puis si vous soufflez pas, ben vous allez être, il y a des accusations qui pourraient s'appliquer. Eh bien, il y a un homme qui lui avait refusé de souffler dans l'alcootest, croyait-on, en fait, au dire des policiers, qui s'en tire, qui a été acquitté en raison de son asthme. Alors, le juge Pierre Lortie de Chicoutimi a acquitté vendredi un jeune homme de 28 ans qui était accusé d'avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine et d'avoir conduit avec les facultés affaiblies en février 2020 dans le stationnement d'un bar de Chicoutimi, en fait, de la Voie Maltée à Chicoutimi, c'est une microbrasserie. Et lors du procès en mai, il avait expliqué au juge qu'il n'avait jamais refusé de souffler. Mais les policiers, eux, disaient que quand il lui demandait de souffler, il bloquait avec ses dents l'alcootest, l'embouchure de l'alcootest. Et donc, ils lui ont demandé à plusieurs reprises. Mais lui, il disait « Non, je fais de l'asthme, je ne suis pas capable de souffler. » Or, finalement, il est arrivé avec des prescriptions. Il a démontré au juge qu'effectivement, il faisait de l'asthme. Il y avait une maladie, une condition respiratoire qui faisait en sorte qu'il n'était pas capable de souffler. Le juge l'a cru et donc il a été acquitté des accusations d'avoir omis de souffler dans l'alcootest. Alors c'est une décision qui est assez particulière, surtout que quand on regarde un petit peu plus loin, il y a une chauffeur de taxi, une dame qui avait croisé l'homme en question ce soir-là, puis elle trouvait qu'il avait l'air en état d'ébriété, puis il était passé proche de sa voiture en reculant. Puis là, il lui avait dit, là, je cite la dame, elle l'avait engueulé, elle lui avait dit, et si, je cite la dame, je vous rappelle, là, je lui ai demandé s'il était saoul, et il m'a dit de manger de la marde. Il me faisait des faces de mongol et m'a envoyé chier. Alors, la grande classe comme chauffeur de taxi. Et l'homme, lui, était allé prendre un verre avec un ami, mais il dit qu'il était le chauffeur désigné de son épouse qui avait pris une seule bière. Or, il y avait eu un témoignage un peu contradictoire parce qu'au policier, il avait dit qu'il n'avait pas bu. Alors, c'était un peu confus l'histoire, mais il reste que le juge a cru la version de l'accusé qui était asthmatique.